Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans le débat ce soir, le dialogue politique au Togo achevé la semaine dernière, que deviendra la cinquantaine de résolutions adoptées, seront-elles mises en œuvre? Nous en parlerons avec nos invités, mais d'abord retrouvons notre invité au Cameroun, invité décryptage, pour comprendre le phénomène de la sextape. A tout de suite.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Peggy Ndonko, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes anthropologue, enseignant d'université et représentant de l'ONG française Psychose Internationale au Cameroun. L'ONG travaille notamment dans le domaine de l'observation des comportements. Plusieurs affaires de sextape, c'est-à-dire des vidéos érotiques ou pornographiques amateurs destinées à un usage privé, ont été relayées ces derniers mois par des médias au Cameroun. La plus retentissante est celle impliquant un journaliste camerounais dont le procès se tient ce 21 et 22 juillet. C'est un phénomène récent. Comment l'expliquez-vous?
Alors, madame, ce phénomène est vraiment récent. Il est actuellement sur les médias au Cameroun. Mais je dirais, avec l'approche anthropologique, qu'il s'agit là des faits sociaux. Il s'agit pour nous des pratiques sectaires. Parce que les sectes sont douées d'un pouvoir de coercition. Les sectes rendent l'homme inhumain. Il y a ce qu'on appelle la culture de la sexualité. Donc il y a des individus qui sont des adeptes de la sexualité et la sexualité est considérée pour eux comme quelque chose d'indispensable. Et peu importe l'environnement où ils se trouvent, on ne distingue plus quand est-ce qu'il faut faire la sexualité, on ne distingue plus où est-ce qu'il faut faire la sexualité. Donc, c'est ancré dans leur culture, dans la culture de ces individus. Et le phénomène, c'est quand ils sortent de cette culture qui devient un peu nouveau pour les autres.
On a vu des cas aussi où même des dépositaires de la loi, comme des gendarmes, se laissaient tenter par ces pratiques et distribuent sur les réseaux sociaux des images de personnes dénudées.
Tout à fait. Le statut social d'un individu ne l'empêche pas ne l'empêche pas de commettre ses actes. Peu importe ce qu'il est, qu'il soit homme en tenue ou pas, gendarme ou militaire ou magistrat, peu importe, c'est pas ça. Même le nom magistrat, même le nom militaire, le nom gendarme peut le faire. Donc il n'y a pas de distinction. Le sexe n'est plus tabou aujourd'hui, c'était dans les sociétés anciennes. Hein. Aujourd'hui, le sexe n'est plus tabou parce que nos enfants sont exposés, tout le monde est exposé. Imaginez un peu dans les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook.
Donc vous voulez dire qu'il y a un lien entre l'explosion des réseaux sociaux et ce phénomène de sextape au Cameroun?
Il y a un lien. Les réseaux sociaux aident ce phénomène à être plus récurrent. Parce qu'avant, comme il n'y avait pas de réseaux sociaux, ce n'était pas tellement connu par les jeunes. Aujourd'hui, l'enfant de 10 ans a un téléphone Android en main. Il est capable de recevoir de ses amis, de recevoir de tout. La nuit à la maison, les parents sont en train de dormir, les enfants sont en train de visionner. De visionner des chaînes où on a interdit au moins de 16 ans. C'est lorsqu'on interdit qu'eux, ils veulent savoir pourquoi on interdit au moins de 16 ans. Comme j'ai 16 ans, je veux voir. Comme j'ai moins de 16 ans, je veux voir. Qu'est-ce qu'on veut me cacher? Et là, l'enfant se met dans une posture de celui qui veut découvrir ce qu'on cache. Je pense que le problème, c'est à ce niveau.
Il s'agit donc d'un vrai phénomène ponctuel ou sommes-nous partis pour assister à de telles situations encore plus longtemps?
Ça va durer si rien n'est fait et rien n'indique qu'on est en train de changer parce que la socialisation primaire a foutu son camp. Il n'y a pas de socialisation primaire, c'est l'éducation que les enfants recevaient autour des parents. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Les enfants se font éduquer par les réseaux sociaux, par le WhatsApp, par la télévision. Les parents n'ont plus le temps. Les parents n'ont plus le temps de sauter les enfants. Il n'y a plus de sensibilisation, il n'y a plus rien. Et puis, le parent a même souvent peur de parler du sexe à son enfant aujourd'hui. Parce que l'enfant en connaît plus que le parent. Lorsque le parent surprend un enfant en train de parler du sexe, le parent lui-même, il est surpris.
Parfois, à des âges de plus en plus précoces.
Tout à fait. Je parle de 8 ans, 10 ans. Vous allez voir un enfant devant l'écran à un moment, il chuchote, il se met à rire. Ou bien il a un geste. Si vous observez, vous allez voir qu'un enfant change un comportement, il a un comportement, là, il vient de changer, là, il a quelque chose qui l'a marqué. Et ça impacte sur le fonctionnement de l'organisme de l'enfant. Il faudrait qu'on revienne à la socialisation primaire. Donc, les parents doivent prendre les choses en main. Il faudrait qu'on revoie le système de communication qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Il faut revoir le système de communication parce que ceux qui communiquent beaucoup plus sur la pudeur que sur la sensibilisation contre la pudeur.
Quel est le regard que la société camerounaise porte sur ces sextapes, surtout aussi à l'égard des victimes qui voient leur intimité violée et partagée sur les réseaux sociaux?
Les victimes non consentantes ne peuvent être que mécontentes. Mais est-ce que c'est tout? Parce qu'après les négociations de gauche à droite, on est plus sûr que la victime est mécontente. Donc moi, je pense que là encore, il y a beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire à ce niveau. La société camerounaise, en gros, les gens ne sont pas contents. Les gens qui sont ordinaires ne sont pas contents de ce phénomène.
Quelles sont les pistes de solution envisagées?
On peut mettre ça assez facile, madame. Si l'État, on est obligé d'interpeller l'État, les pouvoirs publics, les politiques publiques doivent agir. Premièrement, au niveau de la justice. Il faut que les victimes dénoncent. Ça, c'est la première des choses. Et faire confiance à la justice. Comme actuellement, ça se passe. La justice est en train de travailler pour que ces phénomènes ne se reproduisent plus. Moi, je pense que c'est encore possible. Il faut faire confiance à notre justice. Mais notre solution, c'est l'éducation, la sensibilisation des enfants au niveau, à l'intérieur de la famille. Il faut interpeller les autres sciences, les autres disciplines. La psychologie doit intervenir. Les psychologues, les psychanalystes doivent intervenir, les psychiatres doivent intervenir, les anthropologues doivent intervenir, les sociologues doivent intervenir. Donc, c'est des solutions, on a besoin de solutions multidisciplinaires.
Docteur Peggy Ndonkou, merci beaucoup.
Merci, madame.
Anthropologue, enseignant d'université et représentant de l'ONG française Psychose Internationale au Cameroun.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Dans votre émission de ce soir, nous parlons de politique et au Togo. Le énième dialogue initié par le gouvernement dans la perspective des prochaines élections régionales qui sont en principe prévues l'année prochaine s'est soldé par l'adoption d'une cinquantaine de résolutions. Alors que deviendront ces résolutions? Seront-elles mises en œuvre? Nous en débattons avec trois invités. Jean-Pierre Fabre, bonsoir. Allô, monsieur Fabre, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Alliance nationale pour le changement, principal parti d'opposition. David Dossé, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout et également avec nous Ambroise Dagnon. Bonsoir, monsieur Dagnon.
Bonsoir, Liliane.
Directeur de publication de l'hebdomadaire privé togolais L'Expression. Vous êtes également promoteur du site d'information courrierdafrique.net. On me fait signe également que Louis Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine et auteur du livre Togo, une démocratie en construction, est également avec nous. Monsieur Kemayou, bonsoir.
Bonsoir, vous avez de bonnes informations.
Voilà, vous êtes en ligne d'ailleurs du Togo, de Lomé précisément, la capitale. Et pour être précis, je rappelle que vous travaillez avec le gouvernement togolais.
Quand on est journaliste, on travaille avec tout le monde.
D'accord.
Il n'y a pas un camp qui est privilégié par rapport à un autre. Je suis à équidistance des deux, mais je suis à Lomé au Togo, effectivement.
Et je souligne également, pour être également clair avec nos invités, mais aussi avec nos auditeurs surtout, qu'aucun des représentants du gouvernement togolais que nous avons contactés n'a souhaité participer à ce débat. Parmi eux, le ministre de l'administration territoriale et facilitateur du dialogue, M. Payadoua Boukpessi, ou encore les deux porte-parole du gouvernement. Je commence avec vous. Monsieur Fabre, voici donc une semaine que la concertation nationale des acteurs politiques appelée CENAP a réuni pouvoir et une partie de l'opposition a pris fin après 6 mois de discussion. Très rapidement, que s'est-il passé depuis? Quelle est la dernière actualité sur ce sujet?
La dernière actualité sur ce sujet ou bien l'avant-dernière actualité? Pour moi,
depuis une semaine, que s'est-il passé? Depuis une semaine que les travaux se sont achevés?
Nous avons quitté les discussions avant que les travaux ne s'achèvent.
à la veille de la clôture.
Ah, mais non, j'ai entendu dire que c'était la veille, mais ce n'est pas vrai. Nous avons eu des discussions, nous avons adressé des lettres au ministre, j'ai rencontré le ministre, j'ai adressé une deuxième lettre, j'ai fait une conférence de presse là-dessus. Entre la première lettre et la lettre par laquelle nous annonçons notre suspension des travaux, il s'est passé 6 semaines. Et donc, on ne peut pas dire que nous avons annoncé la veille que nous partions. Et d'ailleurs, nous avons dit, nous suspendons notre participation. Si on était dans le cas de si c'était la veille, on ne parlerait pas de suspension.
Le ministre de l'administration territoriale a soutenu que vous avez envoyé votre lettre la veille de la clôture de cette...
Moi, je ne suis pas là pour parler de ce que dit le Premier ministre.
Oui.
Je suis là pour dire les faits et la réalité. Excusez-moi, madame.
Oui.
La première lettre que nous avons adressée au ministre, elle datait du 27 mai. La deuxième, elle datait du 16 juin. Et la troisième, et j'ai rencontré le ministre le 1er juillet. Et nous sommes partis nous avons adressé cette lettre le 12 juillet. Donc, on ne peut pas dire que nous avons quitté la veille. Ça, c'est dans des choses qui ne sont pas justes.
D'accord.
Il ne faut pas les dire. Il ne faut pas répéter ce que dit le ministre.
Mais en même temps, c'est son point de vue, c'est ce qu'il a exprimé. Pour faire court, Monsieur Fabre, donc vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez plus concerné ou pas du tout concerné par ces résolutions.
Nous avons suspendu notre participation aux discussions. Et ce fait que, en disant que nous sommes ouverts à tout ce qui proviendrait d'un examen positif de nos préoccupations. Alors, maintenant, est-ce que nous sommes concernés, nous ne sommes pas concernés? On retourne à la situation
De départ, c'est-à-dire la situation anti-dialogue.
Oui.
D'accord.
Vous-même, vous avez dit le énième dialogue.
Oui, le 28e. En tout cas, merci, M. Fabre, on a bien compris.
Vous avez parlé du énième dialogue, ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup. Ces dialogues ne sont jamais entrés dans l'essentiel.
Monsieur Fabre, on va revenir à vous tout à l'heure. On va permettre, il y a quand même 3 autres personnes qui patientent. Monsieur Dossé, vous, quel est votre... Peut-être avant d'écouter Monsieur Dossé, je vous donne d'abord la parole, vous, Louis Kemayou. Vous avez suivi ce dialogue de Lomé. Quelle est votre analyse au terme de celui-ci? Un dialogue qui donne lieu à 50 de résolutions et dont l'avenir est compromis. Quand on écoute Monsieur Fabre.
Oui, je crois que dans un dialogue politique, il n'est pas facile de satisfaire entièrement toutes les parties prenantes. C'est comme dans des négociations syndicales. Quand vous y allez, il y a un minimum absolu en deçà duquel vous ne pouvez pas aller. Il y a un maximum auquel vous aspirez. Mais entre les deux, il y a un besoin de lâcher du lest de la part de chacune des parties prenantes. C'est ce qui fait le charme d'une négociation et c'est ce qui justifie une négociation. Parce que si tout le monde est d'accord, ça ne sert à rien d'aller à un dialogue. Si tout le monde est en désaccord, on ne peut pas être en désaccord sur tout. Ce que j'entends par là, c'est que le gouvernement ne peut pas avoir entièrement tort et l'opposition dans son ensemble ne peut pas être absolument dans l'erreur aussi. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'au-delà des intérêts partisans des uns et des autres, l'on en arrive à trouver un consensus qui sera celui de l'intérêt général.
Pardon, Luc Kemayou, soyons précis. Il y a un dialogue qui a été fait,
oui,
qui a été organisé, le énième, je l'ai dit, M. Fabre l'a rappelé. Il y a 55 résolutions qui ont été retenues. Mais quand on écoute le discours de M. Fabre aujourd'hui, je reviendrai sur ce qu'en disent d'autres leaders de l'opposition, notamment le CAR et la dynamique Pozro. On a l'impression qu'il ne faut pas beaucoup espérer. En 2 mots, quel est votre sentiment sur la suite?
Mon sentiment, c'est que les absents auront tort. C'est-à-dire que tout le monde soit présent jusqu'au bout de la négociation ou pas, les résolutions seront prises et seront appliquées, qu'elles soient bonnes ou pas.
Merci. Merci, Louis Kemayou. On va écouter. Monsieur Dossé, quel est votre avis sur ce dialogue? Je ne voudrais pas qu'on revienne sur à quel moment M. Fabre a quitté ou non le dialogue, mais les résolutions sont là. Qu'est-ce qu'on en fait?
Oui, je voudrais d'abord rappeler que ce dialogue a concerné exclusivement les partis politiques et nous qui sommes donc de la société civile, nous n'y étions pas. Toutefois, nous avons encouragé la tenue de ce dialogue parce que pour nous, il est important d'aller de l'avant et surtout de voir dans quelle mesure on peut, dans les négociations, arriver à trouver un terrain d'entente par rapport à des questions cruciales. Au Togo, il y a toujours eu des conflits après des élections, tout simplement parce qu'on a toujours estimé que le processus électoral était vicié. Et donc, avant la tenue des régionales, il était important qu'on puisse s'accorder sur un certain nombre d'éléments, notamment, par exemple, la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça a toujours été le leitmotiv de la société civile. Le parti au pouvoir a toujours refusé de prendre cela en compte. Et donc, nous estimons que dans le jeu démocratique, il faut aller à des élections. Mais pour encourager les populations à aller voter, justement, il faut assainir le cadre électoral.
Avez-vous le sentiment, pour faire très concret, que des 55 résolutions qui sont sorties de ce dialogue, on a fait un pas en avant vers ce cadre d'organisation consensuelle d'élections dont vous parlez, ou pas?
Déjà, si on voit la réaction d'un des partis les plus importants, l'ANC, on peut en douter. Mais ce que moi, je voudrais dire, c'est que le pouvoir togolais, ce n'est pas la première fois qu'il invite à un dialogue. Si on le laisse faire, je pense qu'il ne laissera pas passer des résolutions qui risquent de rendre le jeu plus ouvert. Toutefois, il y a un contexte sur lequel on peut jouer pour obliger le parti au pouvoir à céder sur un certain nombre de questions très importantes. Il y a la demande d'adhésion au Commonwealth, par exemple. Donc, ce parti au pouvoir, le régime togolais, est obligé de montrer patte blanche par rapport à un certain nombre de questions. Donc, il y a un contexte qui peut permettre d'obtenir un certain nombre d'avancées. Il faut donc pousser et jouer sur le plaidoyer, sur l'ensemble des pressions possibles pour obtenir quelque chose. Mais si on attend que ce soit le pouvoir qui nous offre sur un plateau d'argent, cela ne se fera pas. Il faut mettre la pression.
D'accord, merci beaucoup. On va écouter notre confrère Ambroise Dagnon juste après cette courte pause.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quel avenir pour la cinquantaine de résolutions adoptées à l'issue du 28e dialogue politique qui a pris fin la semaine dernière au Togo? Nous en parlons ce soir avec David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, Jean-Pierre Fabre, opposant et président de l'Alliance nationale pour le changement, Louis Kemayou, journaliste en ligne de Lomé au Togo, et également Ambroise Dagnon, directeur de publication de l'hebdomadaire privé togolais L'Expression, à qui nous donnons la parole. À présent, Monsieur Dagnon, vous avez évidemment suivi ces discussions politiques qui ont duré 6 mois, à l'issue desquelles ces résolutions ont été adoptées. Mais la dynamique Pozro, qui n'a pas pris part à ces discussions, parle d'échec et demande des discussions directes avec le président Fornia Simbé. Avant peut-être de revenir à la deuxième partie de ma question sur la demande de dialogue, pour vous, quelles sont les avancées qu'ont apporté cette discussion sur le plan politique?
Merci Liliane pour la question. Avant de répondre à cette question, je permettais que je place un mot sur la posture qu'a prise l'Alliance nationale pour le changement, qui a claqué la porte des discussions. Oui, observationnellement, c'était à la veille de la fin des travaux que le parti de M. Jean-Pierre Fabre est sorti des discussions. Alors, même si politiquement, on se rappelle que le 27 mai, ce parti avait envoyé une lettre au ministre en charge de l'administration territoriale et que le 12, il a introduit une note pour annoncer son retrait. On observe, en tout cas c'est factuel, que c'est à la veille de la fin des travaux que le parti de M. Fabre est sorti de la discussion. Maintenant, pour les raisons qui lui sont propres, maintenant, quelles vont être les conséquences de ce retrait-là, en termes peut-être de sérieux, par rapport au parti de M. Fabre?
Parce que le ministre de l'administration territoriale a justement parlé de coups politiques. Oui. Et que il s'agissait tout simplement d'un coup politique, et il a aussi parlé d'incohérence de la part de l'ANC.
Il a même parlé de manœuvre politique. Moi, je ne vais pas reprendre les mêmes expressions que le ministre, mais je pense simplement que l'Alliance nationale pour le changement est dans une posture politique, chose que je lui concède, parce que vous savez...
Pour manque de cohérence aussi, comme l'a souligné le ministre.
Je ne parlerai pas de manque de cohérence, je parlerai plutôt de cohérence de la part du parti de l'ANC, de l'ANC par rapport même, vous voyez, à son héritage politique. Parce que souvenez-vous déjà, en 1999, très rapidement pour faire l'histoire, en 1999, lorsque l'UFC, sur les cendres desquelles est née l'ANC, participait
à l'UFC aujourd'hui de Gilles Chris Olympio.
Oui, lorsque ce parti participait à l'accord cadre de Lomé, souvenez-vous que le parti ne voulait pas signer le document, le relevé de conclusion de l'accord cadre de Lomé. Et il a fallu les couloirs diplomatiques proches de M. Olympio pour que finalement on envoie un second couteau, un certain Éric Kamerding, qui dans l'architecture même du parti n'avait aucun rôle à proprement parler, qui était venu signer le document, même si juridiquement cet accord-là liait l'UFC, mais politiquement, c'était symbolique. En 2006, à Ouagadougou, lors de la signature de l'accord politique global, c'était le même scénario. Ce qui veut dire que l'ANC aujourd'hui, qui a hérité aussi de la méthode politique de l'UFC d'hier, ne voudrait pas que, historiquement, il puisse y avoir des traces de ce que, entre-temps, dans l'histoire politique du Togo, il a signé un accord avec le parti au pouvoir.
Donc, d'accord, pour moi, ça c'était plutôt une parenthèse. Revenons au débat qui nous intéresse.
Alors, pour parler
avancer ou
des
pas après ce dialogue.
Bon, ce qui est certain, il faut dire que le refuge cyclique du parti au pouvoir sous le parapluie du dialogue peut être perçu par des regards extérieurs comme un signe de bonne volonté et d'apaisement continu, mais une ciguë pour les adversaires d'en face, notamment les partis d'opposition, et une cape de cynisme pour les avertis. Mais pouvait-il en être autrement lorsqu'on est en politique? Il faut simplement dire que le parti au pouvoir ne discute pas pour créer les conditions de sa défaite électorale. À partir de ce moment, tous les partis ayant participé, encore une fois, aux 6 mois de discussion, ne pouvaient pas s'attendre à mieux. Aujourd'hui, par exemple, on a discuté du cadre électoral, on a parlé de beaucoup de choses, notamment en quelques points, on nous a dit, selon le relevé de conclusion, dont nous avons quelques échos, qu'il y aurait désormais un représentant de l'administration au sein de la Commission nationale électorale indépendante, CENI, mais qui n'aurait plus voix délibérative. On nous dit également que désormais, l'opposition, ou du moins les partis d'opposition qui enverraient des candidats aux futures élections, seront présents dans les structures d'organisation de ces élections-là. Il y a des avancées, mais elles sont timides, c'est vrai. Mais est-ce que les partis d'opposition qui ont pris part à ce dialogue pouvaient s'attendre à mieux? Aujourd'hui, quand j'entends des partis qui disent que ce ne sont pas des avancées et que c'est pour cela qu'ils ont claqué la porte, finalement, ils donnent raison à la DMK, à la Dynamique Monseigneur Pontro, qui les avait mis en garde dès le départ en leur disant que c'était un marché de dupes.
Merci. Justement. Et à ce sujet, je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre Fabre. Donc, je posais la question tout à l'heure sur la réaction de DMK, la Dynamique Monseigneur Pozereau, à l'issue de cette discussion qu'elle a qualifiée d'échec, et demande un dialogue direct avec le président Fonia Simbé. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette logique, Monsieur Fabre, aujourd'hui?
Merci, évidemment.
Allô, Monsieur Fabre? Allô?
Je suis... Moi, je vous entends.
Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Je dirais que M. Ambroise Dagnon est libre de penser et de dire ce qu'il veut, et qu'un parti politique responsable prend des décisions en toute responsabilité. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes des acteurs politiques. Et nous agissons comme cela nous semble... dans le sens de nos intérêts. Tout ce qu'il dit au sujet de l'UFC, de l'ANC, bon, ça, il est libre de dire tout ce qu'il veut. Donc, je reviens à la question que vous me posez.
La dynamique Pozrodic, cette discussion est un échec.
Excusez-moi.
A eu raison de ne pas y aller. Est-ce que vous demandez aussi des discussions directes?
Analyser ce que dit la dynamique, Monseigneur Pozrodic. Elle n'a pas voulu prendre part aux discussions. Nous, nous avons accepté de prendre part à cette discussion pour que définitivement notre pays dispose d'un cadre électoral digne de ce nom et susceptible de permettre des élections libres, transparentes, équitables et démocratiques.
Mais votre retrait signifie que vous n'étiez pas...
Volonté politique existe, nous avons le temps nécessaire pour faire les réformes nécessaires avant les prochaines échéances institutionnelles, constitutionnelles ou légales, dans 2 ans et demi.
Et ces réformes
vont... Vous me parlez...
Oui.
Laissez-moi parler. Vous parlez d'avancée, d'une cinquantaine de points d'avancée. Mais excusez-moi, la question n'est pas dans le nombre d'avancées. Il peut y avoir 1000 avancées qui ne remettent pas en cause le système de fraude. Si vous faites, vous prétendez faire des avancées, mais le système de fraude, les sources de fraude sont toujours là, vous n'avez rien fait. Et nous disons que les points fondamentaux pour nous n'ont pas été bouleversés, touchés.
Monsieur Fabre, permettez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aussi répondre très clairement pour qu'on les auditeurs veulent savoir quelle est la position claire de votre parti aujourd'hui? Vous participez au dialogue, contrairement au parti CAR qui a décidé de ne pas y aller et qui s'est retiré dès le début de ce dialogue. Vous y allez? Vous vous retirez, que ce soit la veille ou non, finalement, avant les résolutions. Vous avez aujourd'hui un autre groupe de l'opposition, Dynamique Pozrodic, qui dit « c'était un échec, nous voulons des discussions directes avec le président Faure Gnassingbé, le retour du groupe des 5 ambassadeurs pour trouver des vraies solutions ». Quelle est votre position, puisque vous contestez les résolutions ?
Je vous avais bien entendu, je vous avais bien compris. Et je dis, je ne veux pas commenter les positions de ce que vous appelez la dynamique, Monseigneur Pozrodic.
Vous ne voulez pas non plus qu'on applique les résolutions arrêtées au terme du dialogue.
Nous avons été clairs. Je pense que quand on commente ou bien quand, il faut écouter ce que disent les gens. Nous avons écrit une lettre. À M. Boukessi, et nous avons conclu la lettre en disant nous nous retirons, mais nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Merci. Ça veut dire que nous considérons que ce qu'ils appellent ou ce qu'ils appellent avancer pour nous, ça, tout ce qui ne remet pas en cause le système de fraude que nous dénonçons, pour nous, ça ne s'appelle pas avancer.
Merci. Monsieur Dessé, professeur Dessé, finalement, on voit bien que ça a été peut-être 6 mois de discussion pour rien.
Allô?
Oui, professeur Dessé, allez-y, s'il vous plaît.
Oui, alors, vous savez, moi, je l'ai dit au début de mon intervention, en tant qu'acteur de la société civile, citoyen togolais, j'encouragerai toujours le dialogue, mais à condition quand même qu'il y ait des efforts qui soient faits de part et d'autre, des efforts de sincérité, afin que le pays avance.
On a des résolutions, monsieur. Ça, ce sont des positions généralistes. On a des, s'il vous plaît, des résolutions aujourd'hui qui ont été arrêtées, adoptées à l'issue d'un dialogue, même si, on arrive à la conclusion qu'il n'a pas été si consensuel, puisque l'ANC s'est retiré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cela a servi à quelque chose et on peut s'attendre à ce qu'elle permet d'apaiser le climat politique?
Non, là, je répondrai clairement non, puisque manifestement, il y a des acteurs importants qui disent que, en termes de résolution, leurs attentes n'ont pas été satisfaites. Moi, ce que je voudrais ajouter, madame, même si ce sont des positions qui sont généralistes, il est important que l'on puisse aller à des discussions. Vous avez parlé de la DMK, permettez que moi j'en fasse un petit commentaire. Et aujourd'hui, vous le dites, certains appellent à des discussions bilatérales avec le chef de l'État. Ce qui signifie que quoi qu'il en soit, le dialogue, il est important. que cela soit au sein du cadre politique qui a été mis en place ou qu'il s'agisse de discussions bilatérales avec le chef de l'État, il est important que l'opposition et le parti au pouvoir puissent mettre sur pied un cadre pour discuter et avancer. Et aujourd'hui, donc, il y a eu...
Pour discuter sur la base de ces résolutions ou pour entamer de nouvelles discussions, comme si rien ne s'était passé, comme si ce dialogue n'avait pas eu lieu.
Vous savez, ça peut se faire sur la base de ces discussions. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a un certain nombre d'éléments. Et vous savez, personnellement, je ne pense même pas qu'il y ait besoin d'avoir 55 résolutions pour que ce pays avance. Avec beaucoup moins de résolutions, mais des résolutions sérieuses prises en compte, on peut faire avancer ce pays et obtenir un déblocage de la situation. Donc, contrairement à ce que certains ont dit autour de cette table, moi, je reste résolument, en tant que citoyen en tout cas, convaincu qu'il faut dialoguer. Ne pas se dire d'emblée que ça ne sert à rien d'y aller, que c'est un marché de dupes. Je ne le crois pas. C'est sûr que le parti au pouvoir ne viendra pas en vous donnant sur un plateau d'argent tous les éléments qui vont vous permettre d'assainir le cadre électoral et de faire en sorte que aux prochaines élections, ils soient battus.
Merci.
Mais nous sommes en politique et nous sommes dans un système où il y a quand même des interférences qui interviennent. Et je puis vous dire que au terme de ce dialogue qui s'est effectué, je sais qu'il y a des pays, permettez que je dise des pays amis, qui ont souhaité savoir quelles étaient les résolutions qui ont été prises et quelles étaient les résolutions qui ont fait l'objet d'opposition ou d'obstacles ou qui ont nécessité que certains partis comme l'ANC claquent la porte.
Est-ce que vous aujourd'hui pensez que le groupe des 5 ambassadeurs comme, dont parle le DMK doit revenir s'impliquer dans la recherche des solutions après l'adoption de ces résolutions?
Ça peut être le G5, mais pas seulement le G5. Il y a eu des facilitateurs qui sont intervenus durant la dernière crise, comme le Ghana. Le Ghana peut également chercher à intervenir, surtout qu'actuellement, le président du Ghana est le président d'exercice de la CEDEAO. Donc, c'est pour dire qu'il y a un cadre qui a été mis en place, des acteurs politiques ont discuté, la société civile n'y était pas, mais nous restons un acteur privilégié. Nous avons nos priorités également pour que ce cadre électoral soit assaini et le moment viendra où on remettra ça sur la table.
Merci.
Qu'il y ait eu des avancées ou pas lors de ce cadre qui a été mis en place, nous nous sentons toujours concernés par ce qui se passe dans notre pays. Nous savons qu'il y a, comme vous l'avez dit, le G5 ou d'autres pays étrangers, amis, qui sont également très intéressés par ce
Merci ça. Pour ce dossier. On va se retrouver dans un instant, s'il vous plaît. Je regrette, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour conclure notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avec nos invités, nous attaquons la dernière partie de cette émission sur le Togo. La cinquantaine des résolutions adoptées à l'issue du dialogue politique qui a pris fin la semaine dernière seront-elles mises en œuvre? Nous en parlons avec Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance pour le changement, David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, Louis Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine, et Ambroise Dagnon, directeur de publication de l'hebdomadaire privé togolais L'Expression. Messieurs, ça va aller très vite, s'il vous plaît, je vous prie d'être bref et je vous donne la parole, Louis Kemayou. Quand vous écoutez les déclarations faites ce soir, est-ce que vous êtes optimiste quant à la mise en œuvre de ces résolutions?
Non, je suis pessimiste parce que d'une part, vous avez la dynamique, Monseigneur Potro, qui ne reconnaît pas l'élection du président Faure, mais qui demande dans le même temps à dialoguer directement avec lui. De l'autre côté, vous avez l'ANC, peu importe les déboires électoraux que le parti a connus, qui reste une composante très importante de la scène politique togolaise. Et puis en face, vous avez le gouvernement ainsi que la majorité présidentielle qui sont droits dans leurs bottes. Il est évident qu'on va vers un blocage. On l'a vu en 2017, entre 2017 et 2019, il y a eu l'immixtion sur la scène politique d'un acteur qui n'était pas attendu et qui a permis de faire avancer le dialogue sur la réforme, par exemple, constitutionnelle, mais qui a été quand même un trouble-jeu dans le jeu politique. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Il faut qu'on arrive à un cadre dans lequel les acteurs se font confiance les uns aux autres et que cela permette de faire avancer le dialogue. Le cadre parfait de discussion n'existe pas. Les réformes parfaites n'existent pas. Nous sommes que des êtres humains et il peut arriver que pour des raisons multiples et diverses,
nous n'arrivions pas toujours à réaliser ce qui est l'idéal pour la scène politique. Merci. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on n'ait pas l'immixtion d'un nouveau Tikpi Achadam qui viendra parce que le dialogue a échoué à nouveau bloquer la scène politique et qu'on en arrive à des extrémismes. Merci. Qui ne sont peut-être pas musulmans, mais qui sont des extrémismes quand même qui bloquent la vie politique du pays.
Jean-Pierre Fabre, vraiment en quelques phrases, ce qu'Emmaüs a évoqué tout à l'heure, l'attitude de DMK, celle de votre parti. Il faut aussi noter qu'il y a l'autre parti d'opposition, CAR, qui s'est retiré dès le début du dialogue. Est-ce que l'opposition aujourd'hui peut faire front commun pour sortir de cette impasse vers laquelle on s'achemine et dont parlait M. Kemayou et qu'on applique les résolutions de ce dialogue? Allô, M. Fabre? On va écouter donc Ambroise Dagnon, vous m'entendez?
Oui, Liliane.
Oui, comment sortir de l'impasse en quelques mots, puisqu'on a des inquiétudes sur la mise en œuvre de ces conclusions?
En tout cas, c'est certain, il faut savoir que l'arôme du calumet togolais a souvent des effets inhibiteurs. Vous savez, une fois diffusé dans la salle de dialogue, il crée d'abord de l'espoir, ensuite des gaz, par moments des odeurs pestilentielles, faisant fuir quelques-uns de la table comme l'ANC. Et à l'arrivée, c'est toujours le parti au pouvoir qui se présente sur le parvis, armé d'un encensoir de satisfaction. Ça, c'est le défaut qui est présenté de tous les dialogues que nous avons connus, 31, je n'en sais plus, arithmétiquement, si c'est 50 ou 40. Mais de la bonne foi, enfin, la bonne foi du pouvoir de Lomé déterminera la suite. Tout à l'heure, j'ai entendu mon confrère Magloire Kemayou parler des extrémismes qui pourraient paralyser la vie politique du pays. Mais ça dépend du pouvoir. Aujourd'hui, on accuse peut-être...
Vous dites que ça dépend du pouvoir, mais en même temps, quand on voit la multiplicité, la divergence d'opinion au niveau de l'opposition, CAR qui a sa position, DMK qui a la sienne, l'ANC qui va au dialogue, finalement, se retire avant la fin de celui-ci, Il n'y a pas aussi une responsabilité de l'opposition.
Entendons clairement, parce que le relevé de conclusion a été envoyé au gouvernement, parce que c'est le gouvernement togolais qui a commandé ce dialogue-là. Donc le relevé de conclusion a été envoyé au gouvernement. La mise en application des conclusions de ce dialogue-là dépendra non pas de l'opposition, mais du pouvoir. Et je pense qu'on devra mettre en place un comité de suivi des résolutions de ce dialogue-là. Et on sait toujours que le pouvoir de Lomé s'est toujours comporté comme cela, c'est-à-dire que, voilà, on organise des élections qui ne sont pas tellement régulières, et après, bon, il y a des discussions, des dialogues politiques, des pourparlers, après, on sort des conclusions, des résolutions que le pouvoir ne s'échine jamais à respecter, à observer, et puis après, on retombe dans le même cycle infernal.
Merci
donc
beaucoup.
Aujourd'hui,
merci.
C'est la bonne foi du gouvernement qui devra déterminer la suite. Et puis, pour terminer rapidement, je voudrais rassurer M. Jean-Pierre Fabre, hein, quant à la pure de mon intention, lorsque je faisais tout à l'heure ce rappel historique en parlant de l'UFC, ce n'est pas pour dire que l'ANC a fait exactement comme l'UFC, je disais simplement que l'ANC est dans une poursuite politique et je n'ai pas dit que la décision qu'elle a prise de sortir de la CENAP était mauvaise ou bonne, mais je constate simplement que c'est une poursuite politique.
Merci M. Dagnon, j'espère qu'on va écouter M. Fabre à présent. Non, on me fait signe qu'il n'est pas en ligne. Professeur Dossé, aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Dagnon qui estime que la suite de ces résolutions dépendra, ou son application dépendra du pouvoir, quand on sait que M. Fabre vient de dire qu'il n'a pas clairement dit qu'ils étaient prêts au niveau de l'ANC à soutenir ces résolutions. Professeur Dossé ? Allô ?
Oui, vous m'entendez ?
Monsieur Fabre, vous m'entendez ? Monsieur
Dossé ?
Oui, c'est Monsieur Dossé ou Monsieur Fabre ?
Là, c'est moi, Monsieur Dossé.
Oui, Monsieur Dossé, allez-y, s'il vous plaît.
Très bien. Je disais que, en fait, nous nous sommes convaincus que si blocage il y a à chaque fois, c'est malheureusement le parti au pouvoir qui en est surtout le premier auteur, le premier coupable. Alors, s'il peut y avoir une solution à cette crise, il faudrait vraiment qu'il y ait une... plus de bonne foi venant du pouvoir. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport aux partis d'opposition, c'est qu'il est certain que les régionales auront lieu au Togo. Aujourd'hui, la configuration permet d'espérer que Lomé tombe vraiment dans le giron de l'opposition, à condition que cette opposition s'organise et que cette opposition fasse vraiment bloc en termes d'organisation et de stratégie pour... contourner un peu tout ce que le parti au pouvoir pourrait mettre en place comme système de fraude. Il est beaucoup plus facile lors d'élections locales ou lors d'élections régionales de contrôler la fraude lors d'élections présidentielles, par exemple.
Merci.
Et donc, nous, nous pensons que le dialogue qui a été mis en place, il fallait y participer, il fallait jauger un peu la position du parti au pouvoir, mais au sortir de ce dialogue, il ne faut pas s'arrêter simplement au bon vouloir du parti au pouvoir.
Merci, M. Dessé. On a retrouvé M. Fabre.
Un plaidoyer de pression afin que des résolutions sérieuses soient prises en compte pour permettre d'avoir une élection régionale qui permette plus ou moins de contrôler la fraude.
En 30 secondes, M. Fabre, qu'on a perdu tout à l'heure, vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aller vers l'application de ces résolutions ?
Mais nous avons dit que nous étions ouverts à tout ce qui peut être fait comme proposition pour aller dans le sens d'une élection, d'élection libre, transparente et démocratique. Mais je voudrais relever ceci. J'ai entendu dire tout à l'heure que le parti au pouvoir ne peut pas organiser des élections et faire les réformes qui vont lui faire perdre le pouvoir. Et donc, dans le même temps que l'on dit que l'ANC a des positions incohérentes, on dit que l'ANC doit servir de faire valoir à des discussions dont elle considère qu'elle n'amène rien de concret. C'est ce que j'ai compris dans les analyses de M. Ambroise Dagnon, que
merci.
Nous devons accepter d'aller à cette discussion en sachant que nous n'en retiendrons rien. Eh bien, je crois que ce n'est pas la position d'un parti politique
merci.
Sérieux et responsable. Donc,
je suis désolé, Monsieur Fabre, le temps est terminé, malheureusement. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Vous êtes président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Merci à Luma Gloire Kemayou, journaliste et auteur, co-auteur du livre « Une démocratie en construction », Togo, une démocratie en construction. Merci à Ambroise Dagnon, directeur de publication du journal Expression, et David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et le représentant du gouvernement n'ont pas souhaité participer à ce débat. Bonsoir.